Les fils sont mails.
Je me nomme Serge Collin. Je suis guide conférencier depuis 21 ans. Voilà. Et après avoir travaillé sur les îles pendant près de 20 ans comme guide, actuellement je ne reviens que 3 jours par semaine, le vendredi, le samedi et le dimanche. Alors, dans l'histoire de la Guyane, ces trois îlots ont porté trois noms. Les Amérindiens, qui sont les autochtones locaux, venaient à la pêche autour des îles. C'est très poissonneux. Pêcher à l'arc. Les Amérindiens ont appelé cet archipel les îles du Triangle, parce que la configuration géographique des trois îles représente sensiblement un triangle équilatéral. Et puis les Anglais sont les premiers navigateurs à avoir cartographié ces îles. Les Anglais ayant considéré ces trois îlots très dangereux pour la navigation, leur ont donné un petit côté mystique à la fois, les Anglais vont baptiser ces trois îlots les Devil's Islands, c'est-à-dire les îles du diable. Sur les cartes marines anglaises, vous ne les trouvez pas sous le nom d'île du salut, vous les trouvez sous le nom d'île du diable. Et puis les Français vont rebaptiser ces trois îlots les îles du Salut. Alors ça se situe encore une période tragique de l'histoire de France, sous le règne de Louis XV, au terme de la guerre de 7 ans, qui dure de 1756 à 1763, la France va perdre une grande partie de son empire colonial au profit des Anglais. Donc au traité de Paris, la France perd ses possessions en Inde. Au traité de Paris, la France perd également le Canada. Et puis au traité de Paris également, nous perdons une grande partie de la Louisiane occupée par les Espagnols. Donc on va faire le bilan de ce qui nous reste. Et on s'aperçoit que nous avons encore ici en Amérique du Sud un grand territoire qui s'appelle la Guyane, qui était beaucoup plus grand qu'aujourd'hui. Puisqu'à deux reprises de l'histoire, nous rendrons à nos voisins la plus grande partie de ce territoire. Donc Choiseul, grand ministre de Louis XV, va organiser une expédition qui porte d'ailleurs le nom d'expédition de Kourou. Il avait envisagé de débarquer dans les sphères du Kourou. Vous avez embarqué ce matin là 14 000 personnes, s'il vous plaît, hommes, femmes, enfants, tous volontaires, provenant essentiellement d'Alsace et de Bavière, d'où la consonance germanique que l'on trouve ici dans certains noms en Guyane. 9 000 personnes vont débarquer dans cette sphère entre 1763 et 1765. Malheureusement, rien n'a été préparé pour accueillir ces gens. Et rapidement, ces populations débarquées vont être assaillies par les fièvres tropicales. D'abord la malaria, le paludisme, la dengue qu'on connaissait très mal à l'époque, mais surtout ces terribles épidémies de fièvre jaune. Et d'autres épidémies liées à la promiscuité comme le choléra. Et dans les 5 à 6 ans qui vont suivre l'arrivée de ces premiers émigrants de cette malheureuse expédition de Kourou, sur les 9000 personnes qui avaient débarqué dans les sphères, là, il n'en restera plus que 2000 en vie. Et naturellement, ces gens ne veulent pas rester dans une région aussi mortifère. Donc c'est à cette époque-là que les îles du Salut, que ces îlots ont servi d'abord de plateforme au débarquement de ces gens dans les sphères du Kourou, et surtout a servi de plateforme également au réembarquement de ces gens. Et c'est au moment de leur réembarquement où là pas mal de gens vont trouver leur salut qu'on va rebaptiser ces trois îlots, les îles, le nom qu'ils portent aujourd'hui, c'est-à-dire l'archipel des îles du Salut. Et puis on va baptiser chaque île, Cette île, c'est la plus grande. Elle fait 28 hectares. On va la baptiser l'île Royale en mémoire de Louis XV. Hein, l'île de l'Est, on va l'appeler l'île Saint-Joseph. Alors pourquoi Saint-Joseph? Eh bien, le saint patron protecteur de l'expédition, c'est Saint-Joseph. On était fataliste à cette époque-là. Et puis j'ai appris également que Saint-Joseph, c'est le patron de la Bavière en Allemagne, d'où provenaient ces gens. Et puis l'île du Nord, qui est balayée par la houle des deux côtés, qui est relativement difficile d'accès, ils vont lui donner le nom d'île du diable, probablement en souvenir des Anglais. Cette île royale, elle, est constituée de quatre sites distincts. À l'aplomb du débarcadère, vous avez marqué ce matin dans le prolongement de l'Acheté, là. Vous avez un plateau de l'autre côté, qu'on appelle le plateau Est. 15 ans après l'arrivée des premiers bagnards, on va construire sur le plateau Est l'asile d'aliénés. Disjoncter ici pour les bagnards, ce n'était pas quelque chose d'exceptionnel. En contrebas, côté mer, vous avez les ateliers. Hein, dès que les bagnards sont arrivés ici, on a mis en place des ateliers. Vous avez trois forges qui travaillaient en permanence. On recevait des fers de France, on les travaillait sur place. Vous avez un atelier d'habillement. On fabriquait des vêtements pour les bagnards avec des bandes verticales rouges et blanches. Là, c'est l'habit traditionnel des bagnards en Guyane. On faisait des vêtements kaki pour les surveillants et des vêtements kaki également pour les bagnards punis. Et puis en quittant ce bâtiment, vous avez un peu plus loin les abattoirs, puisque 6 ans après l'arrivée des premiers bagnards, en 1858, on va créer à Kourou un bagne agricole. Toute la pointe des roches que vous avez vue à la sortie du fleuve ce matin était aménagée par l'administration pénitentiaire coloniale. Vous aviez 5 fermes agricoles à Kourou, 80 bagnards qui travaillaient la terre, là. Et surtout à Kourou, vous aviez un troupeau de 200 buffles ou zébus qui, pendant toute la durée du bagne, va alimenter en viande les îles du Salut. Il n'y avait pas de frigo à l'époque. Il fallait venir, il fallait que la viande vienne sur pied. Voilà. De l'autre côté, vous avez le ravin. Vous avez monté la côte pour venir jusqu'à l'auberge. Dans le ravin, vous avez l'ancien bâtiment du gestionnaire, l'officier d'administration qui réglait les problèmes financiers à la fois des îles du Salut et de Kourou. En contrebas, là, vous avez l'ancienne maison du commandant des îles du Salut et de Kourou, avec une très belle vue sur la baie des Cocotiers, vous avez débarqué ce matin, une très belle vue également sur l'île Saint-Joseph. Vous avez monté ici jusqu'à l'auberge, ici vous êtes à l'intérieur de la citadelle. Vous avez des fortifications qui font tout le tour du plateau, là. On appelle ça la citadelle. Ces fortifications, on avait commencé à les construire sous le règne de Louis XV et on les a complétées avec l'arrivée des bagnards ici en 1852. En 1880, on va mettre en service juste en face, on y passera tout à l'heure d'ailleurs, le quartier des surveillants mariés. Et on peut dire qu'à partir de cette date-là, les surveillants qui viennent en poste ici pourront venir avec femmes et enfants. Alors vous allez me dire, venir avec femmes et enfants dans une île prison, c'était pas tellement engageant. Mais les salaires en francs or à l'époque étaient le double de ce qu'ils auraient eu en métropole avec le même grade. Et comme on vivait sur la communauté, c'était tout économique. À partir de ce passage, nous sortons de la citadelle. Hein, on voit très bien les créneaux de cette fortification. Donc lorsque l'administration des bagnards arrive ici, le 10 mai 1852, ils étaient partis de Brest le 31 mars, hein, après 40 jours de voyage. On a lié cette frégate, là, c'est un bateau mixte voilée-vapeur qui n'allait pas très vite. Hein. Le bâtiment que vous avez devant vous, là, ne sera mis en service qu'en 1870. Il est divisé en deux parties. La partie gauche, ça va devenir l'habitation du commandant adjoint. Vous avez une hiérarchie pyramidale, hein, c'est militaire. Hein. Commandant des îles du Salut et de Kourou. Commandant adjoint pour les îles du Salut. Et chaque site du bail est commandé par un chef de centre. Et vous avez toute la hiérarchie des surveillants militaires coloniaux. Vous aviez 6 grades. Hein. Le grade le plus élevé, c'est surveillant principal, surveillant chef de première et deuxième classe, et surveillant militaire de première, deuxième, troisième classe. Voilà les 6 grades de l'administration pénitentiaire coloniale. Alors ce bâtiment est un des premiers bâtiments en pierre à remplacer les bâtiments en bois. Il rentre en service en 1865, vous voyez, 13 ans après l'arrivée des premiers bagnards. Une division en deux parties, la partie inférieure gauche, ça devient l'école primaire. C'est là que sont scolarisés les enfants d'officiers et de surveillants militaires. J'ai bien dit enfants d'officiers et de surveillants militaires. J'ai pas dit enfants de bagnards. J'ai quelques rapports avec l'arrivée des premiers bagnards dans les 8 premières années. Il y a quelques femmes qui arrivent en même temps, qui sont séparées d'ailleurs. Et à partir de la création du bagne de Saint-Laurent-du-Maroni, toutes les femmes ont été concentrées après à Saint-Laurent-du-Maroni. Elles étaient mises d'ailleurs sous la tutelle des sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Il ne faut pas oublier qu'entre les deux guerres mondiales, la plupart des prisons de femmes en France sont gardées par des bonnes sœurs. Donc, vous avez l'école primaire au rez-de-chaussée. Le premier étage, c'est le logement de l'instituteur ou l'institutrice. Et la plupart du temps, d'ailleurs, l'institutrice est mariée à un surveillant. Oui. Ils arrivent tous les deux en poste ici. Et après 3 ans de service à la fin du 19e siècle, ils repartaient en métropole avec 1 an de congé payé. C'est pas mal pour l'époque. Ça tombera 6 mois après la guerre 14-18. Vous avez l'école primaire à gauche, la partie droite est donnée au chef de centre, la personne qui commande l'île royale, sous les ordres du commandant adjoint et sous les ordres du commandant des îles, du Salut de Kourou, et c'est très militaire. Premier bâtiment mis en service, l'église. Elle a été montée en 2 ans. On me dirait qu'avec 250 bagnards, le travail allait relativement vite. Donc l'église montée en 2 ans, le presbytère monté en 4 ans, et derrière l'église, la maison des sœurs montée en 6 ans. Ce sont les 3 premiers bâtiments directement construits en pierre, et vous voyez, destinés aux religieux. Alors ce bâtiment rentre en service en 1856. Le rez-de-chaussée, ça devient le presbytère ou l'aumônerie. Vous avez 2 prêtres là qui vont veiller sur la santé morale des bagnards, vous voyez. Et au premier étage, c'est le logement du médecin capitaine. En 1904, 1 an avant la séparation de l'Église et de l'État en 1905, vous avez des lois qui interdisent à l'État d'embaucher des religieux. Donc les prêtres et les sœurs vont s'en aller. Les plans de cette église ont été faits par un officier du génie militaire qui s'appelle le capitaine Antoine. On sait faire des blocos, mais on sait faire également des églises. Elle est montée en 2 ans. Sur le plan architectural, vous avez un quadrilatère en pierre et en briques. Et tout le reste, vous voyez, c'est de la charpente, de la planche et de la tôle. Le clocher que vous voyez là ne sera mis en place qu'en 1880. Les sœurs, vous voyez, sont arrivées ici en 1852 avec les bagnards. Ils sont arrivés, les sœurs, en même temps que les bagnards. Elles s'en vont en 1904. 14 sœurs vont mourir en soignant les malades. Et ces femmes qui soignaient les malades sont mortes entre 25 et 40 ans. Avec l'espérance de vie à l'époque n'était pas très longue. Et tous les ans, au mois de juillet, les sœurs de Saint-Paul-de-Chartres de Cayenne viennent dire une messe ici, dans la chapelle, à la mémoire de leurs collègues, mortes au service des bagnards, bien entendu. C'est le plus vieux bâtiment construit par les bagnards. Cette église, naturellement, a été décorée à plusieurs reprises. Mais le dernier bagnard à l'avoir décoré entre 1938 et 1940, c'est un bagnard célèbre, peintre de talent. Il s'appelle Francis Lagrange. Francis Lagrange, peintre de talent, mais bagnard quand même. À droite, vous avez une scène de la Nativité, avec la Vierge penchée sur le berceau, qui a disparu. Vous avez le vitrail au milieu avec une allégorie des îles et du littoral. Et puis à gauche, vous avez, qui est moins dégradé, vous avez une peinture sur bois, allégorique de l'Annonciation. On voit la Vierge Marie et l'Archange Gabriel. Derrière le maître-autel, vous avez une peinture murale représentant l'Eucharistie avec le blé, la vigne, le pain, le vin. Et puis là, vous avez, qui prend toute la largeur de la tribune, vous avez la dernière peinture en couleur que Francis Lagrange a peint dans cette église. Cette fresque, il l'a peint en juillet 1940. Et tous les personnages de la fresque implorent le Christ en croix. En 1940, Francis Lagrange n'avait plus de peinture de couleur. Donc dans les trois tableaux du fond de l'église, il a utilisé de la peinture blanche avec du noir de fumée ou du charbon de bois pilé. Jusqu'en 1905, séparation de l'église et de l'État, vous aviez une balustrade, là, vous voyez, qui séparait l'église en deux, les bagnards derrière, les surveillants et leurs familles devant. Et pour venir à la messe, il fallait se laver et se changer. On ne voulait pas les sentir dans l'église, alors que devant, vous aviez les femmes de surveillants, là, avec chapeau et voilettes parfumées, vous voyez, qui venaient à l'office. Tel militaire devant vous, ce bâtiment va rentrer en service en avril 1864, 12 ans après l'arrivée des premiers bagnards. Antérieurement, on avait mis en place des baraques de Bordeaux comme infirmerie. Voilà. Alors, vous avez la plaque de construction en haut, vous la voyez la plaque ?
Oui.
1862-1863, mis en service en avril 1864. Sur le plan architectural, là, vous avez un très grand sous-sol qui regorgeait de marchandises. On stocke ici. Donc vous avez un très grand sous-sol. La partie centrale est réservée à la cage d'escalier pour monter à l'étage. À droite, au rez-de-chaussée, vous avez le bureau du médecin-chef, la pharmacie et la salle d'opération. La salle d'opération est commune aux trois hôpitaux. On venait se faire opérer ici et on était reconduit après dans son hôpital respectif. Et puis au premier étage, vous avez six chambres individuelles réservées aux officiers. Et puis à gauche, au rez-de-chaussée, au premier étage, vous avez des salles communes. Des salles avec des lits tout autour, comme ça se faisait à l'époque. Avec un taux de mortalité très élevé, avec l'arrivée des bagnards en Guyane, le commandant des îles du Salut avait divisé la population en quatre décès, en quatre catégories distinctes. Les adultes libres, officiers, surveillants militaires, fonctionnaires, leurs épouses, étaient enterrés dans le grand cimetière de l'île Saint-Joseph. Et à l'entrée du cimetière, vous avez un mémorial à la mémoire des surveillants victimes du devoir. Les enfants qui mouraient sur l'île Royale sont enterrés complètement en contrebas, là. Vous avez 45 enfants enterrés dans ce petit cimetière. Les malheureux sont morts entre 3 mois et 3 ans. Et puis dans ce petit cimetière des enfants, à droite, vous avez une adulte qui est enterrée parmi les enfants. La malheureuse s'appelle Élise Échard. Elle est morte à 34 ans en 1938. C'était la femme du chef de centre. Et comme la malheureuse avait déjà perdu 2 enfants, le mari, par dérogation, va demander que sa femme ne soit pas séparée de ses enfants. Et puis les bagnards, eux, conformément à la tradition maritime, on les jetait systématiquement à la mer. Un bagnard qui mourait, on le descendait dans la morgue, c'est un petit bâtiment en contrebas du cimetière, là. On le cousait dans un sac, on le descendait au port, on le montait dans une chaloupe, on le mettait dans une chaloupe, on lui mettait une pierre ou une gueuse métallique au pied, et on le jetait à la mer dans cet endroit-là, là, abrité de l'île, vous voyez. Alors ici, vous rentrez dans la première partie du quartier disciplinaire, qu'on appelle le quartier des cachots sombres noirs. 17 cachots de ce côté-ci, qu'on a fermé en mauvais état. 17 cachots de ce côté-là, total 34 cachots. Et ici, vous êtes dans le préau des cachots noirs. Un bagnard enfermé à la réclusion cellulaire peut passer 23 heures par jour dans sa cellule à l'isolement individuel complet. On va le sortir une demi-heure le matin, une demi-heure l'après-midi. On en sort entre 12 et 15, la distance réglementaire les uns des autres. Les mains derrière le dos et la tête baissée pour ne pas provoquer le surveillant, ils vont se dégourdir les jambes pendant une demi-heure. Au terme de la demi-heure de promenade, toujours individuellement et dans le plus grand silence, ils sont reconduits dans leur cellule. Ce quartier disciplinaire, d'ailleurs, on l'appelle la maison du silence. Les bagnards enfermés là-dedans n'ont pas le droit de parler, ils n'ont pas le droit de communiquer. Allez, 17 cellules, prenez place. Et aujourd'hui, ça fonctionne encore. Entièrement forgé, entièrement riveté. Je ne voudrais pas les recevoir sur les pieds. Alors, vous avez là 4 plots en pierre et en brique. Et vous avez devant vous le parvis de la guillotine. On avait 2 guillotines en Guyane, on est riche. Hein. Une à Saint-Laurent-du-Maroni, qu'on dressait au milieu du quartier disciplinaire de Saint-Laurent, et l'autre guillotine qu'on dressait ici, au milieu de la cour ouverte du quartier disciplinaire de l'Île-Royale. En 100 ans de maille, on a exécuté 12 bagnards, oui, c'est pas beaucoup, alors que pendant la même période, on en exécutait 98 à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc lorsqu'il y a une exécution capitale, la veille au soir, le bagnard bourreau va dresser la guillotine au milieu de la cour. On parle du bagnard, le plus privilégié du bagne. La guillotine est dressée au milieu de la cour, là. Il revient le lendemain matin couper la tête du condamné, emmène le corps à la morgue avec la tête entre les jambes, revient, nettoie son engin, le démonte, le ramasse, et peut aller faire la sieste jusqu'à la prochaine exécution. Devenir bagnard bourreau sur l'île Royale, c'était véritablement épouser la fainéantise. Allez, pour terminer mon propos, quelques chiffres. Pendant les 100 ans qu'a duré le bagne ici en Guyane, on a exilé dans ce pays, entre le 10 mai 1852, arrivé des 301 premiers bagnards, et le 30 novembre 1938, arrivé à Saint-Laurent des 666 derniers relégués, on a envoyé dans cette région 52 000 condamnés aux travaux forcés à temps ou à perpétuité. À partir de 1885, la petite délinquance récidiviste, 15 000 relégués, c'est pas mal du tout, total 67 000, il faut y ajouter 600 déportés politiques. Et sur ces 67 600 personnes exilées en Guyane, simplement 20 000 retrouveront la liberté. Allez, sur ce, je vous souhaite bon appétit.
Merci. Voilà.
Merci. Merci pour les applaudissements.
Les fils sont mail.
Radio Pékin.